da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem astăzi cu o discuție cu Julian Chiapone Lucchesi, directorul Institutului Francez din România. Și anul acesta, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și-a deschis scenele spre prezența franceză în așa numitul sezon francez. 13 proiecte venite din Hexagon au adus reprezentații aflate la confluența dintre tradiție și inovație, gândire critică și ferie vizuală. 12 companii franceze, atât în secțiunea indoor, dar și în cea outdoor, noutăți editoriale, traduceri și vedete ale scenei pe Aleea Celebrităților. Alexis Michalik, unul dintre cei mai populari dramaturgi ai generației sale, câștigător al mai multor premii Molière, în special pentru Le Porteur d'Histoire, Edmond și Intramuros, spectacol prezentat anul acesta la Sibiu, a adus teatrul său narrativ accesibil și profund uman. El a primit și o stea pe Aleea Celebrităților. O istorie a omenirii, Neanderthal, un spectacol coprodus de Compagnie Lyodi și Festivalul de la Avignon, o investigație teatrală asupra originilor noastre într-o frescă poetică și politică. Compagnie du Petit Monsieur, Paris Benares sau Caramontran, cu animalele lor uriașe care au metamorfozat orașul. Și asta ca să vorbim doar despre câteva dintre proiectele prezentate în cadrul sezonului francez la FITZ. Îl ascultăm pe Julian Chiapone Lucchesi.
Pour moi, je pense pour nous collectivement, c'était important de symboliquement terminer le centenaire et en fait le printemps culturel français Impreuna ensemble qui termine cette saison. Eh bien, c'était une clôture avec le FITZ parce que on a une relation spécifique importante avec ce festival, mais au-delà, le théâtre représente quelque chose dans la relation culturelle franco-roumaine qui est assez irremplaçable. C'est quelque chose de très fort, qui a une tradition bien ancrée, avec beaucoup d'acteurs et qui a surtout des générations qui se renouvellent. Et donc, je pense que symboliquement, pour nous, c'était aussi important de dire que le théâtre compte dans notre relation bilatérale. Et d'ailleurs, je peux vous donner un exemple pour le 145e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Roumanie qui se déroule cette année. Il y a eu en février à Paris, à l'Académie française, un moment qui a été organisé un peu solennel. Dans ce moment solennel, ont été mis à l'honneur un certain nombre de personnes, dont Constantin Kériac et Emmanuel de Marcimota, qui se connaissent bien et qui ont donc parlé du théâtre et de la relation franco-roumaine à travers le théâtre. Donc c'est pour tout cela pour dire que pour nous c'était vraiment important et que cette saison française elle est bien établie ici. C'est une volonté de Constantin Kériac et de son équipe de l'établir et nous on est très heureux de le soutenir, de continuer à faire en sorte qu'il y ait une présence française de toute façon importante, que ce soit comme on dit indoor ou outdoor, mais que ce soit aussi avec des personnalités qui sont invitées, qui sont récompensées et avec aussi une activité de projet. Il peut rappeler certains projets par exemple qu'il y avait eu avec le théâtre de Rennes qui était au sein d'un projet européen avec un certain nombre de mobilités et de préparations qui avaient abouti à une création et qui était montrée au FITZ. Il y avait aussi des projets éditoriaux qui sont très importants et je peux citer cette année quelque chose dont on est très fier et qui d'ailleurs rappelle ce qui s'était passé l'année dernière, parce qu'au FITZ il y a toujours des choses qui se passent qui sont assez extraordinaires et qu'on découvre un petit peu comme ça en arrivant au cœur de la Transylvanie. Et l'année dernière il y avait quand même le phénomène Kouliabine avec John Malkovich, et la pièce de théâtre c'était Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, qui est peut-être un des plus grands dramaturges du XXe siècle, en tout cas un des plus grands dramaturges français, ça c'est sûr. Cette année, avec l'université, dans cette nouvelle collection qui met un focus sur la traduction du théâtre contemporain français, eh bien, on a pu lancer cette traduction des œuvres complète de Bernard-Marie Coltès. Et ça, c'est aussi une activité qui est extrêmement importante pour nous et structurante au sein d'une saison au-delà de la diffusion de spectacles.
Alexis Michalik a eu son étoile sur cette allée de célébrités et je crois que vous l'avez représenté, il n'était pas là, non?
C'est ça. Il n'a pas pu se joindre à cette date-là à Sibiu. Je pense qu'il le regrette. Il a fait un petit message, par ailleurs, lors du gala de clôture qui était très sympathique pour dire à quel point il regrettait vraiment de ne pas être là. D'ailleurs, je pense que s'il avait été là, il aurait fait du discours de réception de cette étoile quelque chose d'intéressant, parce que c'est vraiment un homme qui crée des histoires. C'est un conteur, c'est quelqu'un de très humain. C'est quelqu'un qui a énormément de succès auprès du public. Et je crois que c'est très important d'avoir toutes sortes de théâtres, mais aussi de valoriser le théâtre qui est un théâtre un peu unanime, c'est-à-dire qui permet à tout le monde de trouver un peu son compte dans son compte COMPTE, mais aussi son compte CONTE, parce que je crois que c'est Alexis Michalik, c'est un homme multicarte qui sait utiliser l'ensemble de ses talents pour transformer des histoires en théâtre, mais aussi réaliser des films, mais aussi écrire, et qui aime avant tout, je pense, le contact avec l'autre et cette grande humanité. Son spectacle Passeport à Paris en ce moment a énormément de succès, et je crois que ce qui a été montré au fil de cette année l'a été aussi. Donc j'étais extrêmement heureux et honoré que le Fitz décide de lui attribuer cette étoile sur la liste des célébrités. Et je note aussi avec plaisir que chaque année il y a un ou plusieurs grands artistes français qui sont récompensés. Et cette année, il y avait une étoile évidemment à titre posthume qui a été remise et qui était importante pour la France aussi, pour la relation franco-roumaine. C'était Eugène Ionesco. C'était certes un clin d'œil, mais je pense que c'est plus que ça, parce que Eugène Ionesco, c'est une étoile parmi les étoiles, mais c'est une étoile qui brille quand même d'une force incroyable. Je disais tout au début de l'interview que le théâtre pour la relation franco-roumaine compte énormément. Je pense que Eugène Ionesco, évidemment, est une figure titulaire, et donc je suis extrêmement heureux quand je vois que cette figure continue à briller et à être importante pour nous, parce que c'est une décision du FIT de le faire, et donc c'était aussi un beau moment.
En tout cas, il suffit de regarder un peu attentivement, les relations sont très importantes culturellement parlant entre la France et la Roumanie. Rien que si on regarde une semaine en avant à Tif, à Cluj, là aussi une vraie saison française avec des films qui ont ému.
Oui, on peut parler du Tif. Alors j'aurais aimé que l'espace entre les deux, même si on parle de théâtre et de cinéma, soit un tout petit peu plus grand, ce qui nous permettrait...
Juste au moins 2 jours pour pouvoir sortir ta mande.
Mais ceci étant dit, je pense que le TIFF, la présence française au TIFF, est là aussi traditionnelle. Elle était cette année particulièrement importante, et on a voulu que ça soit aussi une présence francophone qu'on a repris un peu en main en quelque sorte pour renforcer la coopération, parce que d'abord c'était le 10e anniversaire d'un prix auquel je tiens beaucoup et que j'ai voulu revitaliser, qui s'appelle le prix du jury des jeunes francophones. Donc vous avez pu voir que ce jury non seulement s'est réuni, que nous avons avec le TIFF fait en sorte d'avoir un appel à participation très large sur tout le pays, cette fois-ci et pas uniquement à Cluj, donc avec des jeunes qui sont extrêmement motivés, qui ne sont pas forcément des jeunes qui étudient le cinéma, certains oui, d'autres non, mais qui sont tous extrêmement passionnés de cinéma et de français. Donc ils ont débattu en français, ils ont été en contact avec Mikhail Kirillov et avec des experts de l'industrie aussi. Ils ont été en contact, bien sûr, avec les films, puisqu'ils ont pu voir des films sélectionnés pour eux, francophones qui passaient au TIFF, et ils ont appris à débattre et à réfléchir, à prendre une décision de jury, ils ont mis leur décision s'est portée sur le film La Pampa, qui est un film je pense très très intéressant et qui donc va bénéficier d'un soutien de notre part et de celle de TV5 Monde, notre partenaire sur ce prix, pour être distribué en Roumanie, et ça c'est aussi extrêmement important. Et puis il y avait des experts français, les 4 experts français qu'on a invités dans le cadre des Industry Days du TIFF, et donc voilà, puis on était présents avec on essaye de faire en sorte que des acheteurs, des distributeurs, des réalisateurs soient aussi là, et le TIFF programme des films français, il y a une relation charnelle, et là c'est ce qui est très important, c'est la coproduction. Et je pense aussi que dans le cinéma, c'est le ministre de la Culture française qui à l'occasion de Cannes d'ailleurs avait suggéré à ses collègues européens de la suivre dans une tribune pour dire qu'il faut défendre le cinéma européen comme un cinéma qui fait partie de la défense de notre identité culturelle collective européenne. Et je crois que c'est extrêmement important que la France et la Roumanie jouent toute leur part dans cela. Et moi je vois que par exemple le film qui a eu film roumain qui a un peu raflé tous les suffrages, Anul Nou Care Nu A Fost, voilà ce film-là, il a aussi eu beaucoup de succès chez les cinéphiles en France, et je m'en réjouis.
Pour revenir à Sibiu, moi je dois remarquer aussi la présence des compagnies françaises dans les spectacles de rue. Et là, toute catégorie, des petites compagnies de une à deux personnes, comme des très très grandes compagnies.
Si, vous avez complètement raison. Et je crois que la beauté du festival de Sibiu aussi, ici, c'est de mettre en valeur le théâtre de rue. Et le théâtre de rue, c'est important. Et ici, que ce soit, alors il y a eu, je crois, une douzaine de compagnies françaises, en fait, pour le théâtre de rue. C'est énorme. D'autres qui reviennent, qui sont très contentes de passer par Sibiu, que ce soit la compagnie Elixir, la compagnie Balade, des spectacles qui sont poétiques, qui partagent avec le public des choses qui parfois même, c'est pas le cas là, mais ce pourrait être le cas, qui avec des marionnettes géantes permettent de fabriquer avec les habitants, si on est un peu en amont, de fabriquer des marionnettes contextualisées, puis ensuite de les utiliser. Évidemment, c'est une autre expérience, mais je veux dire, tout ça est très participatif et très proche et très charnel en quelque sorte. C'est le théâtre de rue, c'est un théâtre qui est direct. Et moi, je retiens surtout la poésie, l'émerveillement dans les yeux des enfants et des parents. Ça, c'est quand même quelque chose de précieux. On a aussi des inventions folles. Dire là, ce qu'on a montré avec Paris Bénarès, qui est une élevage sacré. Paris Bénarès, une compagnie qui font des espèces de figures mécaniques superbes, et ils étudient en quelque sorte l'éthologie, c'est-à-dire la manière dont les animaux se comportent, pour essayer de travailler les mouvements et puis d'y ajouter des aspects artistiques de la danse, etc. Paris Bénarès, c'est un projet fantastique, et moi je suis très heureux que ça soit ici. Donc oui, et on en parlait d'ailleurs avec les responsables de ces compagnies, le théâtre de rue se porte bien en France aussi parce qu'il est très soutenu par les municipalités, par les régions. Et ça, c'est important de soutenir la culture de manière générale. Mais investir dans la culture, c'est aussi se rendre compte qu'il faut une grande diversité, et le théâtre de rue a toute sa place. Et moi, je suis très heureux que ce soit cette créativité française, cette diversité française, elle soit mise à l'honneur ici réellement, puisqu'on a une vraie saison française de théâtre de rue en réalité.
Que ce soit du théâtre parlé, que ce soit du théâtre écrit et publié, mais même le contact avec les artistes, ça nous mène quelque part à rechercher et pourquoi pas aimer la langue française.
Oui, vous avez totalement raison, et je crois que c'est bien de le redire aussi ici, quand on parle de ces coopérations culturelles, elles se font parce que le contact existe entre les uns et les autres, et ce contact, il ne vient pas de nulle part. Il vient aussi de notre longue relation, et cette longue relation entre la France et la Roumanie, j'ai la conviction qu'elle est basée avant tout sur l'exception francophone roumaine. Et cette exception-là, elle continue d'exister, mais elle est en danger. Et nous, on doit tout faire, c'est notre métier, mais on doit tout faire ensemble pour la préserver, parce que la préserver, c'est pas justement juste préserver la qualité de l'apprentissage d'une langue à l'école, qui est importante, et il faut avoir le nombre d'heures suffisant pour le faire, mais c'est aussi préserver la singularité de la relation franco-roumaine, qui est exceptionnelle et qui, sans le français, serait pas la même.
L'am ascultat pe Julian Chiaponelu Chiezi, directorul Institutului Francez din România. Și ca să rămânem în zona francofonă și tot la alea celebrităților, vă propun câteva minute împreună cu Alain Platel, ortopedagog și regizor autodidact, coregraf belgian, fondator al companiei Le Ballet Classique de la Belgique, sau pe scurt, Le Ballet C de la B. Alain Platel a adus spectacolul Coup Fatal, o piesă muzicală cu energie contagioasă, în care muzicieni originari din Republica Democratică Congo preiau din repertoriul baroc pentru a compune un veritabil imn al bucuriei. Rodriguez Van Gama, Alain Platel și Fabrizio Cassol au realizat un spectacol între teatru, muzică și dans, cu Bach, Handel și Monteverdi, care se înlănțuiesc cu pulsațiile continentului african. Barocul și muzica tradițională congoleză, cu câteva accente rock și jazz, au fuzionat într-un decor care face eco unei realități al unei țări în care problemele sunt constante. Frenetic și bulversant, un spectacol despre ale cărui origini ne-a vorbit Alain Platel. Oh, Qu'on peut placer un petit peu le contexte de la création de ce spectacle.
En 2008, c'était Fabrizio Cassol, le compositeur, et moi, nous avons fait un spectacle ensemble dans lequel on avait invité un très jeune contre-ténor qui s'appelle Serge Cacuggi. Et donc lui, c'était quelqu'un qui n'était absolument pas professionnel. Il avait appris à chanter de l'opéra en écoutant la radio à Kinshasa. Donc il était avec nous pendant 2 ans, quand on a fait ce projet. Il est rentré à Kinshasa, et là il voulait continuer à travailler la musique baroque européenne, parce que c'était un projet qu'on a fait ensemble autour de la musique de Bach. Donc il est rentré à Kinshasa, il voulait continuer à travailler la musique baroque, mais avec la coopération des musiciens congolais. Et là il a commencé un projet à faire de la musique qui était un mélange de air baroque et la musique populaire de Kinshasa. À un moment donné, ils ont réinvité Fabrizio pour travailler avec eux au niveau de la musique, et Fabrizio me dit: il faut vraiment venir parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu n'as pas envie de faire un contexte plus théâtral autour de ce projet? Donc j'y suis allé, j'ai assisté à des répétitions sur un cours, comme ça j'ai vu les musiciens, ils étaient formidables, mais ils étaient tous assis, et donc je ne savais pas comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut qu'ils bougent, ou est-ce qu'il faut créer un contexte théâtral ou quoi? Et donc la première chose que je leur ai demandé, c'est de se lever au lieu de rester assis, et là ils ont commencé à bouger, et ça devenait petit à petit déjà un spectacle de danse. Alors là, j'ai aussi rencontré un sculpteur qui s'appelle Freddy Tsimba, qui travaillait avec des douilles, qui faisait des statues très très romantiques et très touchants, mais avec des douilles, qui venaient des endroits où il y a la guerre au Congo. Et lui, j'ai demandé de faire une proposition pour la scénographie. Donc, il a fait des rideaux de douille qui sont vraiment très troublants, parce que si on ne le sait pas, c'est comme des diamants, en fait, qu'on regarde. Et troisième chose, j'ai demandé aux musiciens de me raconter leurs histoires personnelles autour de les danses qu'ils font entre eux, la situation ou l'histoire des sapeurs, par exemple, que je connaissais pas. Et on a utilisé tous ces éléments pour petit à petit faire une composition qui est d'abord musicale, mais qui est aussi très visuelle, par les choses que les musiciens font sur scène.
Dans vos spectacles, en général, il y a une connotation politique, vous dénoncez des choses, c'est l'idée qui arrive dans la mesure où le spectacle se construit, ou vous partez de cette idée-là qu'il y a un message à transmettre?
Ça vient petit à petit, en cours de route, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler avec les Quinois, je me posais la question: mais comment est-ce que on va représenter le continent en faisant ce spectacle? Bon, il y a les références par le décor qui fait quand même des allusions à certaines situations qu'on connaît trop bien de ces régions, mais j'ai aussi appris par eux et en travaillant avec eux qu'il y a une force vitale et une joie de vivre, je dirais. Ça sonne un peu comme un cliché, mais c'est quand même quelque chose de très fort que je découvrais était aussi une forme de rébellion aussi contre toutes les choses mal qui se passent dans ce pays. J'ai jamais compris quand j'étais là comment c'était possible pour des gens qui parfois vivent dans des conditions pénibles, qui sont capables de faire de l'art, de montrer de la joie, d'être très généreux vers les étrangers, prêts à partager, qui font de la musique, qui dansent, etc., etc. Parfois, je comprenais pas comment c'était possible de le faire dans des conditions pareilles. Et je l'ai toujours interprété comme une forme de rébellion. Et s'il y a un message politique dans cette pièce, c'est plutôt dans ce genre, dans cette direction-là qu'on doit le chercher. À côté de ça, il y a aussi le choix de mettre, d'utiliser une chanson de Nina Simone, To Be Young, Gifted and Black, comme aussi une forme de référence à une certaine époque dans laquelle la communauté africaine en Amérique se révoltait contre la ségrégation. Oui, et tout ça. Et ce qui est marrant aussi, en disant ça, j'ai entendu, parce que moi j'étais pas avec l'équipe qui venait de Kin ici, que jusqu'aujourd'hui, à chaque fois, quand ils viennent de leur pays en Europe, il y a une manière de les approcher aux aéroports et aux contrôles comme ça, qui est quand même très très dur à vivre et à témoigner. Quand on est là avec eux, c'est toujours eux qu'on demande de sortir, de montrer leur passeport, de contrôler extra, etc., etc. Et ils le sentent de plus en plus comme une forme de discrimination qui existe jusqu'aujourd'hui. Et de sentir ça, d'être confronté avec ça, c'est terriblement pénible à témoigner.
Est-ce que vous pensez que vous avez apporté quelque chose là-dessus aussi? Les aider à voir les choses un peu différemment?
Je crois que ça se passe dans une forme de dialogue. Parce que ce que j'ai appris par eux, c'est encore plus important que vice-versa. Et je suis sûr que, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre eux, ils portent quelque chose, des grains de ce qu'ils ont vécu dans ce projet, qu'ils continuent à disperser, à utiliser dans d'autres situations. Je donne un exemple. Rodriguez Fangama, le directeur musical de ce projet, le guitariste, on était dans la première tournée, on était souvent confrontés avec la question pourquoi il n'y a pas de femmes dans la compagnie. Ce sont que des hommes. Ce n'était que des hommes à ce moment-là. Et donc, il ne comprenait pas la question au début, mais petit à petit, il a trouvé la réponse. Il dit, mais tu sais, à Kin, de devenir artiste, c'est déjà très, très difficile. Donc, pour une femme, encore beaucoup plus difficile. Donc, c'est très difficile de trouver des bons musiciens féminins. Mais par ce projet-là, il a commencé à établir une organisation à Kinshasa qui supporte les jeunes, les garçons, mais surtout les filles, à apprendre la musique. Donc c'est quelque chose qui l'a amené par ce projet pour réaliser...
Oui.
Oui, pour réaliser à Kinshasa. C'est un exemple. Mais au niveau personnel, parce que moi j'ai continué à travailler avec quelques musiciens de la première équipe, jusqu'aujourd'hui dans des projets très différents, je sens que la manière dont ils regardent les choses, comment ils communiquent, comment ils comprennent ce qui se passe ici, comment ils le communiquent quand ils rentrent à la maison, a quand même évolué. Comme les choses ont évolué aussi avec moi, justement parce que je suis resté en dialogue avec eux.
Vous dites, la musique c'est la communauté, mais la danse c'est quelque chose de très individuel. Et je voulais savoir comment la musique et la danse vous ont changé, vous.
Ça, s'il n'y avait pas la musique, déjà, je serais mort. J'ai vu un petit film sur une femme, j'ai oublié son nom, elle avait 109 ans. Et c'était quelqu'un qui avait survécu le Holocauste. Et elle habitait dans un petit appartement et elle jouait le piano. C'était une musicienne. Et donc, on faisait une interview avec elle, entre autres, comment tu as vécu le Holocauste, etc., etc. C'est extrêmement beau, c'est très touchant, mais il y a une phrase qu'elle a dit que moi je prends comme un guide. Elle dit, music is God. Donc, elle dit, la musique, c'est Dieu. Et peut-être, pour moi aussi, si, parce que je ne suis pas vraiment croyant, s'il y a un concept qui ressemble le plus à ce que je crois qui pourrait être un Dieu, ça se traduit dans la musique. Ça, c'est sûr pour moi. La danse, alors la danse est autre chose. J'ai compris, en travaillant avec des enfants en difficulté, que tout le comportement corporel fait partie de la manière dont une personne communique. Donc on n'a pas seulement le langage, on a toute la physicalité. En travaillant avec des sourds, on m'a expliqué que Il y avait quelque chose de très drôle. Il y avait un acteur sourd avec qui j'ai travaillé qui disait, mais tu sais, moi et les sourds en général, ils peuvent vraiment voir très vite si quelqu'un ment. Parce que ça se traduit dans un comportement physique que les gens qui écoutent, qui entendent, parfois ne voient pas. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand on parle, et déjà, comme nous on parle, il y a tellement de choses qui se passent dans le corps qui vont au-delà des mots qu'on dise. Et je trouve que la danse, c'est une prolongation de ça. C'est quelque chose qui parfois est nécessaire pour traduire tous les sentiments extrêmement profonds pour lesquels on ne trouve pas les mots et que le corps commence à parler.
L-am ascultat pe coregraful belgian Alain Platel. Și ca să încheiem, un mic anunț de la Centrul de Cultură Contemporană Rezidența Nouă din București, care a lansat un apel deschis pentru Artist Rooms, un program anual de rezidențe destinat artiștilor tineri din afara Bucureștiului care își doresc să exploreze și să lucreze într-un cadru colaborativ. Programul sprijină faza de cercetare și dezvoltarea unui proiect artistic, punând accent pe proces și interacțiune, fără a impune realizarea unui produs final. Rezidența Artist Rooms oferă spațiu de cercetare, dialog și experiment artistic deschis comunității și este dedicată noilor generații de artiști din România. Se întâmplă în luna august, când Bucureștiul se golește de agitația obișnuită și când rezidența nouă devine un spațiu de întâlnire și lucru pentru o rezidență artistică. Rezidenții sunt încurajați să organizeze sesiuni de lucru deschise, ateliere, discuții, prezentări și evenimente performative care facilitează dialogul cu publicuri diverse și încurajează schimbul de idei într-o manieră participativă și interdisciplinară. Artist Rooms încurajează colaborarea, experimentul și implicarea în viața orașului, oferind sprijin logistic și conexiuni cu organizații culturale sau persoane relevante din București. Pot participa artiste, artiști sau grupuri artistice de maximum 4 persoane cu vârste până la 38 de ani din România, mai puțin din București, cu interes pentru, dar nu limitat la, practici participative, regenerarea patrimoniului istoric și reconectarea la natură în context urban. Programul oferă un onorariu pe artist în valoare de 5.000 de lei, decontarea costurilor de masă într-o limită prestabilită, spațiu de lucru într-un centru cultural activ din centrul Bucureștiului, suport logistic și acces la echipamentul tehnic al rezidenței nouă, un program personalizat de conexiuni cu persoane sau organizații din sfera culturală locală și rețeaua Fundația Nouă, transport și cazare, un buget de producție dedicat evenimentelor comunitare sau participative în valoare de 4.000 de lei, suport în comunicarea evenimentelor publice și un profil editorial dedicat publicat pe scena9.ro. Programul este deschis pentru aplicații individuale sau colective, fără a fi limitat la un singur domeniu artistic. Sunt încurajați să aplice artiști din domenii variate, de la arte vizuale și arte performative, la muzică, scriere creativă, design sau multimedia. Se caută artiști interesați de lucrul în echipă, de cercetare artistică aplicată în context urban și de interacțiune reală cu ceilalți rezidenți și cu publicul. În cazul aplicațiilor de grup, persoane din domenii complementare, precum antropologia, istoria, arhitectura sau științele sociale, sunt binevenite, însă proiectul propus este necesar să fie unul artistic. Perioada rezidenței este 1-31 august, beneficiarii sunt așteptați să petreacă între 2 și 3 săptămâni în București și să participe la evenimentul comun de încheiere a rezidenței pe 30-31 august. Aplicațiile pot fi trimise până pe 10 iulie. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul Rezidenței Nouă sau al Fundației Nouă. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!